Je voudrais lire une parole tirée du prophète Ésaïe au chapitre 45 du verset 18. Ésaïe 45 du verset 18. Car ainsi a parlé l'Éternel, Créateur des cieux, lui le vrai Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite. Il l'a préparée. Il ne l'a pas créée pour être une terre déserte. Non, il l'a formée pour être habitée. Je suis le Seigneur et il n'y en a point d'autre. Ce n'est pas dans le secret que j'ai parlé. Ce n'est pas dans un coin obscur de la terre. Ce n'est pas aux descendants de Jacob que j'ai dit, c'est en vain que vous me chercherez. Non, moi, le Seigneur, je dis la justice. J'annonce des choses sincères ou alors la vérité. Rassemblez-vous et approchez-vous. Approchez-vous tous, peuple païen, qui avez échappé. Ils sont dépourvus. D'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois sculpté et qui prient un Dieu qui ne peut les sauver. Exposez votre cause et présentez-la. Qu'ils se concertent ensemble. Qui l'a fait savoir dès les temps anciens? Qui l'a annoncé il y a longtemps? N'est-ce pas moi, le Seigneur, en dehors duquel il n'y a pas d'autre Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et laissez-vous sauver, vous tous extrémités de la terre, car je suis Dieu et personne d'autre. Par moi-même, j'ai juré, de ma bouche est sortie la vérité et une parole indissoluble. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue me jurera. Dans le Seigneur seul, confessera-t-on, j'ai toute justice et toute force. Vers lui viendront honteux tous ceux qui s'opposaient à lui avec hostilité. Dans le Seigneur, toute la postérité d'Israël sera justifiée et se glorifiera en lui. Ici, c'est une parole merveilleuse et précieuse qui nous a été laissée. Je pense que nous ne pouvons pas faire autrement que d'apporter à notre Seigneur l'adoration et la louange réellement. Car nous savons que c'est lui qui a effectivement fondé le ciel et la terre. C'est lui qui a donné l'existence à toute vie. Il est le Seigneur de toutes choses. Il est encore plus que cela. Il est le Sauveur de toute la création. Et c'est pourquoi nous venons à lui. Nous n'avons pas besoin d'aller vers une idole sculptée ou d'adorer une idole faite de bois ou de n'importe quel métal, mais nous venons vers le Dieu vivant, vers le véritable, vers celui qui a créé l'univers et qui nous a aussi désignés pour la gloire de son nom. Peut-être que les gens ne fléchissent pas encore le genou devant lui aujourd'hui. Mais l'heure viendra où ils voudront le faire et il sera alors trop tard. Mais ils devront reconnaître qu'il existe un Dieu juste et vrai. Mais nous, en tant que croyants, nous n'avons pas besoin d'attendre cette heure-là. Mais nous pouvons dire dès maintenant, il nous a rachetés. Il nous a rassemblés et c'est ainsi que nous sommes venus ici, comme il est dit au verset 20. Rassemblez-vous et approchez-vous. Approchez-vous. Approchez-vous tous, peuple païen qui avait échappé. Et je voudrais dire que nous sommes ceux qui ont échappé par la grâce de Dieu. Et nous devons nous approcher de lui et nous approcher. Et nous pouvons dire qu'il nous a donné la grâce et la compréhension de tout. En particulier de sa précieuse et sainte parole. Il dit ensuite, la deuxième partie du verset 20, Ésaïe 45, « Ils sont dépourvus d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois sculpté et qui prient un Dieu qui ne peut les secourir. » Oh, comme c'est merveilleux que nous puissions, ou puissions prier un Dieu qui aide. Et je voudrais dire que nous pouvons tous dire « Il nous a déjà aidés, secourus. » Et nous pouvons dire « Il continuera à nous secourir. » Et c'est pour cela que nous sommes si heureux et si reconnaissants ce soir aussi, que nous pouvons nous approcher, que nous pouvons nous approcher. Oui, il dit au verset 21, « Exposez votre cause et présentez-la, qu'ils se concertent ensemble. Qui l'a fait savoir dès les temps anciens? Qui l'a annoncé il y a longtemps ?» Oui. N'est-ce pas le Seigneur qui a révélé tous les mystères? Oui, dès le début, nous pouvons dire que c'est lui qui a parlé avec, qui a parlé aux ancêtres, à nos frères dans la foi, à ceux qui ont mis leur espoir en lui. Et nous pouvons dire, frères, chers frères et sœurs, qu'en ces jours, il nous a parlé à toi, à moi et à nous tous. Et nous pouvons dire qu'il a eu pitié de nous, il nous a fait miséricorde et qu'il s'est souvenu de nous. Même si nous n'en étions pas dignes, même si nous l'avons peut-être évité, mais il nous a cherché. Il t'a cherché, il m'a cherché. Et que tout à coup, nous avons pu entendre sa voix et nous approcher de lui. Et ce soir encore, nous sommes tellement reconnaissants. Je ne sais pas pour vous, mais je me réjouis que vous soyez tous venus. Vous savez, nous appartenons tous ensemble. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand on regarde le monde et qu'on voit les choses qui se développent dans toute l'histoire du monde, que ce soit dans le domaine religieux ou dans d'autres domaines, nous ne pouvons que dire que tout est effectivement proche. La fin de toutes choses est proche et nous voulons donc nous retrouver devant lui ce soir aussi pour écouter ce qu'il a à nous dire. Car il a toujours quelque chose à dire, à nous dire par sa précieuse et sainte parole. Non pas par des choses que l'on fait soi-même, non pas par des choses que l'on invente soi-même, mais il nous parle par sa parole. Et nous savons que sa parole ne trompe pas. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles dureront toujours. Et c'est pourquoi nous sommes si heureux et si reconnaissants d'être déjà fortifiés par la parole de notre Dieu. Oui, il nous a sauvés, il nous a rendus libres. Verset 23. Par moi-même, j'ai juré, de ma bouche est sortie la vérité et une parole indissoluble. Une parole qui ne se dément pas. Nous y voilà, c'est ça. Elle est sortie de sa bouche. Et je crois que si un homme avait voulu dire ces paroles, il n'aurait pas pu les dire. Mais c'est par l'Esprit Saint qu'il a été donné à cet homme de Dieu d'exprimer ces paroles des centaines d'années à l'avance. Et il était déjà Et que cela était déjà fixé, que le salut serait aussi pour les païens. Mais qui l'a compris? Peut-être même pas le prophète. Nous ne le savons pas. Mais cela pourrait bien être possible. Mais voyez, le temps est venu pour tout et nous voyons que sa parole est à raison, est juste. Ce qu'il a dit s'est réalisé et les dernières choses s'accompliront encore. Nous en sommes si heureux et si reconnaissants. Je pense que nous avons de nombreuses raisons de remercier et de louer notre Dieu ce soir aussi et de lui rendre et de lui apporter l'honneur et la gloire. C'est ce que nous voulons faire maintenant en nous levant et en faisant une prière commune. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur de nous avoir accordé une nouvelle fois la grâce de nous réunir à nouveau ici, en ce jour, sous l'écoute de ta parole. Seigneur, nous venons comme nous sommes en ce moment. Oh Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs, tu connais nos aspirations. Oh Sauveur, tu sais ce dont nous avons besoin, même en ce soir et en ce jour. Oh Seigneur, Sauveur, nous levons les yeux vers toi, ô Seigneur, et nous te prions du fond de nos cœurs. Rends-nous dignes, ô Seigneur, de recevoir ta parole, que tu continueras à nous adresser, ô Seigneur. Nous te prions du fond de notre cœur. Rends-nous dignes de lire ta parole. Rends-nous dignes de dire ce qui doit être dit sur ta parole. Rends-nous dignes de recevoir et de l'accueillir, de l'accepter et de la croire de tout notre cœur. Sauveur fidèle, enlève toute incrédulité, enlève du milieu de nous tout ce qui ne t'est pas agréable, Seigneur. Ô Sauveur, nous te prions que tout soit sous ton sang à cette heure, que tout soit enlevé, enseveli, sous ta croix, ô Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi, le cœur sincère, Seigneur, que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous parler ainsi, et que nos cœurs soient saisis par ton Saint-Esprit. Baptise, Seigneur, d'esprit et de feu, que ta présence glorieuse et puissante soit sur nous tous. Seigneur, ne nous laisse pas assis là comme si tu n'avais pas parlé, mais que nos cœurs se réjouissent en ta présence, que nous soyons rafraîchis. Seigneur, c'est pour cela que nous nous sommes précipités ici, ensemble. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous, fais-nous grâce, bénis les frères, bénis tous ceux qui sont venus. Seigneur, même ceux qui n'ont pas pu venir, Dieu fidèle, aie pitié de nous et fais-nous miséricorde et sois avec tous. Ô Sauveur, Seigneur, sauve aussi tous ceux qui nous comprennent mal, ou nous méprisent. Seigneur, nous les déposons sous tous devant toi, Seigneur, que tu les touches tous, Seigneur, et que tu aies pitié de tous, et que tu t'occupes de tous. Ô Seigneur, nous demandons toutes ces choses en ton nom merveilleux et précieux. Seigneur Jésus, que ta parole continue maintenant à nous parvenir, ô Seigneur, et que nos cœurs soient transpercés par ta gloire. Seigneur, nous t'adorons et louons ton nom glorieux. Reçois l'adoration, reçois la louange, la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Je n'ai pas du tout calculé ce temps. Je voulais aussi m'asseoir et écouter. On ne peut pas seulement distribuer, il faut aussi parfois recueillir, recevoir. Et la meilleure façon de le faire, c'est de bien écouter. Celui qui écoute bien peut recevoir une manne, peut recueillir une manne précieuse, pas seulement pour un jour, mais pour quelques jours, semaines et mois. Nous avons entendu une parole magnifique tirée d'Ésaïe 45. Et la question se pose toujours de savoir si la parole de Dieu nous va vraiment droit au cœur. Si elle est aussi fraîche, aussi vivante, aussi réelle qu'elle l'était, est-elle aussi réelle qu'elle l'était à l'heure où les prophètes l'ont reçue, l'ont prononcée, ont été saisis, subjugués, submergés, bénis lorsqu'ils ont prononcé toutes ces choses. Combien plus devons-nous être bénis, nous qui vivons tout ce dont ils ont parlé, prophétisé, parlé, si les prophètes déjà ont été bénis lorsqu'ils ont reçu la parole, lorsqu'ils ont exprimé, prononcé la parole qui se trouvait dans un avenir lointain à leur époque. Combien plus devrions-nous être bénis, nous qui vivons à une époque où Dieu n'a pas parlé pour un avenir lointain, mais où ce qu'il a prononcé dans les temps anciens, il a fait s'accomplir de nos jours. Et il devrait y avoir, comme il est écrit dans Luc 24, vous le connaissez tous par cœur, nos cœurs n'étaient-ils pas tout en feu quand il nous parlait en chemin? De quoi parlait-il? De l'accomplissement de tout ce que Moïse, les prophètes, et ce qui était écrit dans les psaumes. Au moment de l'accomplissement de la parole, il y a une brûlure dans nos cœurs, un feu, comme c'était le cas lorsque ces hommes de Dieu ont reçu la parole. J'ai tout de suite souligné quelques passages, y compris le verset 17, car nous avons commencé par le verset 18. Isaïe 45, verset 17. Mais Israël obtiendra le salut par le Seigneur, un salut éternel. Vous n'aurez pas à avoir honte. Vous ne serez pas couverts d'opprobre pour l'éternité. Verset 18 maintenant. Car ainsi a parlé le Seigneur, créateur des cieux, lui le vrai Dieu, qui a formé la terre et qui l'a faite. Il l'a préparée, il ne l'a pas créée pour être une terre déserte. Non, il l'a formée pour être habitée. Celui qui lit dans Genèse 1, verset 1, sait exactement. La terre était déserte et une terre vide, mais ici il est écrit que Dieu ne l'a pas créée pour être un désert, pour être vide. Non pas qu'elle soit sans forme, sans vie et inhabitée, mais ce qu'elle était autrefois, elle ne l'est plus. Toute la semence, et c'est ce que frère Branham met si merveilleusement en évidence, il dit, Dieu n'a pas seulement répandu la semence après avoir dit que la lumière soit, et la lumière fut, pour que les eaux se rendent à leur place. Il dit non. La semence était déjà là, mais elle est sortie par la lumière. Elle a une possibilité de sortir, de lever, de croître, de prospérer, de se multiplier, de porter du fruit. C'est exactement ce qui s'est passé dans ta vie et dans la mienne. Tout était désert et vide. Mais la semence de Dieu était là quelque part. Nous étions la semence de Dieu et nous le serons pour l'éternité. Et cela, frère Branham le dit aussi très clairement et très distinctement. Et Matthieu 13 le dit aussi. Quand nous disons parfois que frère Branham l'a dit, nous voulons seulement souligner qu'il a exprimé ce que la Bible enseigne déjà très clairement et très distinctement. Mais nous, notre vie était déserte et vide, sans vie, sans sens, sans valeur, sans but. Et le Seigneur dit que la lumière soit. Et la lumière fut, Genèse 1, verset 3. Soudain, la semence a germé. Dieu l'a fait dans ta vie et dans la mienne. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il s'en aille pour lui-même et la terre pour qu'elle soit livrée à elle-même. Non. Il a parlé dans les profondeurs et ce qu'il a dit est arrivé. Il est le Créateur et sa parole est une parole toute puissante, une parole commandée, une parole de commandement et toutes les choses doivent donc se faire selon sa parole. C'est moi qui ai formé la terre et qui l'a faite. Il a aménagé, il ne l'a pas créée pour qu'elle devienne un terrain vide. Non, c'est pour être habité qu'il l'a formé. Ésaïe 45, verset 18. La fin. Oh, quelle parole merveilleuse. Pensez à cela. La terre était déserte et vide. Les eaux inondaient tout. Mais l'Esprit de Dieu planait sur l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'abîme. Car sous ce niveau d'eau, il y avait la terre. Dans la terre, il y avait la semence, la graine. L'Esprit de Dieu planait. Le Seigneur dit, le Seigneur Dieu a parlé cela. C'est produit. L'Esprit de Dieu plane sur cette terre, surtout depuis la Pentecôte. Et par la parole de Dieu, tout de nouveau, le joyeux message est annoncé. Et la semence qui est sur la terre sort. Elle est amenée à la vie. Elle élève, elle croit et prospère. Puis il est dit plus loin, Ésaïe 45. Donc il lit la fin du verset 18 et il commence à lire le verset 19. Je suis le Seigneur, il n'y en a personne d'autre. Il n'y en a point d'autre. Maintenant le verset 19, ce n'est pas dans le secret que j'ai parlé, ce n'est pas dans un coin obscur de la terre. Cela aussi est tout à fait vrai. Même si Dieu a peut-être parlé quelque part, cela s'est néanmoins su sur toute la terre. Ce que Dieu a fait sur l'estrade à Jérusalem a été connu dans le monde entier. Ce qui s'est passé à Bethléem dans un lieu isolé et une étable est connu dans le monde entier. Ce que Dieu a dit à Abraham à Ur en Chaldée, au-delà de l'Euphrate, est connu dans le monde entier. Même si Dieu a parlé dans le coin le plus reculé, son peuple en est informé. Son peuple l'apprend, l'entend, le croit de tout son cœur. N'est-ce pas merveilleux que nous puissions croire? Nous croyons ce que Dieu a dit à Moïse. Nous croyons ce qu'il a dit à Abraham. Nous croyons ce qu'il a dit à Isaac et promis à Jacob. Nous croyons tout. C'est une grâce. C'est incroyable. Nous n'étions même pas là. Les gens d'aujourd'hui disent, oui, écoutez, vous êtes déjà avec moi, n'est-ce pas? Vous êtes ici avec moi. Pas du tout. Vous ne savez même pas si tout cela est vrai, ce que vous croyez. Nous savons que c'est vrai. Ce que les gens disent, ce n'est rien de toute façon. Mais ce que Dieu a dit, c'est la vérité pour l'éternité. Et cela aussi, frère Branham l'explique toujours si bien. Je suis tellement submergé, touché par les prédications ces derniers temps comme jamais auparavant. Je dois le dire ici, entre nous. J'ai parfois pensé que frère Branham, en tant qu'homme si simple, avait apporté les choses si simplement et que beaucoup trébuchaient dessus. Mais dans cette simplicité, il y a une telle profondeur. Cela dépasse l'entendement. Il faut, je crois que nous ne soyons pas encore assez simples pour saisir ces profondeurs qui sont cachées là. Car c'est justement dans la simplicité que se révèle la chose puissante. Qu'apparaît la chose puissante. Si quelqu'un est quelque chose de grand et apporte ensuite quelque chose de grand, eh bien, c'est deux fois quelque chose de grand. Mais si quelqu'un n'est rien et qu'il en sort quelque chose de puissant, alors on sait très bien que cela ne vient pas de l'homme. L'homme n'est qu'un canal, qu'un récipient, qu'un vase. Et le poète chante que des vases, maître saint, mais des vases remplis de ta puissance. Fais couler pour nous et à travers nous la vie que ton esprit crée. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé. Revenons donc à notre époque. Et si je mentionne frère Branham de temps en temps, ne m'en veuillez pas. Mais qui d'entre nous était présent lorsque cet homme est né dans les montagnes du Kentucky, dans une cabane en bois? Un bungalow qui se composait d'une seule pièce avec un petit vestibule et la neige soufflait ainsi dans tous les sens, n'est-ce pas, à travers les fissures et à travers le bâtiment. et la colonne de feu était suspendue au-dessus de sa tête après sa naissance. Après sa naissance, le monde entier l'a appris. Tout le monde religieux est au courant. Et vous savez que je suis quelqu'un qui aime aller au fond des choses. Quand Frère Branham a dit sur une bande audio, cette image est à Washington et elle y est sous copyright, il m'a fallu presque une journée entière pour la trouver à Washington, mais je l'ai trouvée. Je n'ai pas cessé de le faire, de la chercher jusqu'à ce que je la voie de mes propres yeux à Washington. Je suis simplement quelqu'un qui suit parfois les choses sans les crier sur les toits, mais je n'ai pas laissé cela m'échapper. Je me suis dit, si j'écris sur ce sujet, si je le rapporte, je dois être sûr que c'est vraiment le cas. J'y ai cru, mais j'ai aussi voulu savoir. Je suis ainsi parfois, comme Thomas, j'ai aussi besoin de mettre ma main là et de sentir. Et ensuite, ça va déjà un peu mieux. Comme c'est merveilleux que Dieu puisse aussi rendre publiques les choses qui se sont passées dans le secret et les faire connaître. Et c'est pourquoi il peut dire tranquillement, ce n'est pas en cachette que j'ai parlé. Ce que Dieu dit ne reste pas caché. Cela se révèle toujours. Ce que Dieu fait ne reste pas non plus caché. Cela se manifeste toujours. Nous arrivons certainement encore un peu à Jean 4. Mais ici, il est écrit au verset 21. Ésaïe 45, verset 21. Exposez votre cause et présentez-la. Qu'ils se concertent ensemble. Qui l'a fait savoir dès les temps anciens? Qui l'a annoncé il y a longtemps? N'est-ce pas moi le Seigneur, en dehors duquel il n'y a pas d'autre Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et laissez-vous sauver, vous tous extrémités de la terre, car je suis Dieu et personne d'autre. Le salut vient du Seigneur notre Dieu. Et parce qu'il est un Dieu éternel, c'est pourquoi le verset 17 dit que c'est un salut éternel. Ésaïe 45, verset 17. Un salut pour l'éternité. Pas seulement pour le temps, mais pour l'éternité. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Éternellement. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et laissez-vous sauver, vous tous, extrémités de la terre, car je suis Dieu et personne d'autre. Le verset 23. Par moi-même, j'ai juré, de ma bouche est sortie la vérité et une parole indissoluble. L'Écriture ne peut être transgressée, ne peut être annulée, brisée. Notre Seigneur lui-même l'a dit et c'est écrit ici une parole qui est indissoluble. L'Écriture ne peut pas être brisée. Elle s'accomplit. Et si nous croyons, elle s'accomplit en nous, en toi et en moi, dans ta vie et dans la mienne. Dieu a juré par lui-même et a parlé. Et sa parole est une parole indissoluble. Tout ce qu'il a dit est oui et amen. Voici maintenant ce verset ou cette phrase. La deuxième partie du verset 23. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue me jurera. Dans le Seigneur seul, confessera-t-on, j'ai toute justice et toute force. Vers lui viendront honteux tous ceux qui s'opposaient à lui avec hostilité. Dans le Seigneur, toute la postérité d'Israël sera justifiée et se glorifiera en lui. Je voudrais que vous prêtiez attention à ceci. Vous savez que nous avons beaucoup traité ce sujet sur le plan de l'enseignement il y a des années, plus que ces derniers temps. Mais notez que là où il y a Dieu, là où le mot Dieu est écrit, il faut laisser Dieu. Et là où il est écrit Seigneur, il faut laisser Seigneur. Il faut mettre Seigneur. On ne peut pas le changer. Il doit rester ainsi. Maintenant, il est écrit ici, Ésaïe 43, verset 23. La deuxième partie. Devant moi, tout genou fléchira. Toute langue me jugera. Maintenant, le verset 24. Dans le Seigneur seul, confessera-t-on, j'ai toute justice et toute force. Ici, c'est dit par le Seigneur. Dans le Seigneur. Si nous ouvrons à ce sujet le chapitre 2 de Philippiens, vous verrez tout de suite pourquoi. Car Dieu, dans l'Ancien Testament, est le Père. Dans le Nouveau. Et le Seigneur de l'Ancien est le Fils dans le Nouveau. Ici, Philippiens, chapitre 2, il est écrit du verset 7. Non, il est sorti de lui-même, en prenant la forme de serviteur, en entrant tout entier dans la nature humaine. Et il a été trouvé comme un homme dans sa condition corporelle. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de toute mesure et lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou de tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est une parole merveilleuse. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit de moi tout, devant moi tout genou fléchira, toute langue confessera. Et dans le Nouveau, nous entendons, toute langue confessera, tout genou fléchira. De tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, à la gloire de Dieu le Père, ils devront confesser qu'en Jésus-Christ seul est le salut, le secours, le pardon et tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, il est encore dit ici dans la parole prophétique, et plus précisément dans la partie suivante, Ésaïe 45, verset 24. La deuxième partie du verset 24, vers lui viendront eux honteux tous ceux qui s'opposaient à lui avec hostilité. Dans le Seigneur, toute la postérité d'Israël sera justifiée et se glorifiera en lui. Certains qui étaient hostiles reviendront à la raison et au fond, l'hostilité a bien été dressée. L'inimitié a bien été dressée et Dieu nous a aimés quand nous étions encore ses ennemis. Mais il nous a aimés, nous a fait sortir et a fait de nous des amis. En lui se trouve la justice et le salut. Toute langue confessera et tout genou fléchira et s'exprimera devant lui. Seul dans le Seigneur, ainsi confessera-t-on, j'ai la pleine justice et la force. Ou le salut. Ça, c'était le verset 24. Nous le confessons déjà, dès aujourd'hui. Dans le Seigneur et en lui seul, nous avons la pleine justification, le plein salut, la pleine grâce en lui et en lui seul. Et cela peut réjouir et rendre reconnaissant le cœur de quelqu'un, même celui d'une personne lourdement chargée, si nous y réfléchissons. Le verset 19, ce n'est pas dans le secret que j'ai parlé. Ensuite, le verset 21, exposez votre cause et présentez-la, qu'ils se concertent ensemble. Et ensuite, il dit, qui l'a fait savoir dès les temps anciens? Qui l'a annoncé il y a longtemps? N'est-ce pas moi, ce qui doit arriver, n'est-ce pas moi, l'Éternel, en dehors duquel il n'y a pas d'autre Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et laissez-vous sauver, vous tous, extrémité de la terre, car je suis Dieu et personne d'autre. Nous savons que Dieu est par nature esprit et qu'il s'est déjà révélé dans l'Ancien Testament comme le Seigneur, comme le visible, donc en forme visible. Et nous le trouvons également dans le Nouveau Testament. La Bible dit que Dieu n'a jamais vu Dieu, que personne n'a jamais vu Dieu. Mais il s'est révélé en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui me voit, voit le Père. Et cela reste un mystère. Qu'aucun homme ne peut expliquer ou sonder, mais que nous pouvons croire. Et c'est ainsi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas celui qui le comprend, ce n'est pas celui qui peut l'expliquer, mais celui qui croit sera sauvé. Et la foi est un don de Dieu. Comment pouvons-nous comprendre qu'il soit écrit dans Hébreux 11 que Dieu a appelé le monde à l'existence à partir du néant? Nous, en tant qu'êtres humains, nous disons que rien ne vient de rien. Nous devons toujours avoir quelque chose à partir duquel nous pouvons ensuite faire quelque chose. Non, Dieu n'avait besoin de rien et il a tout fait du rien, du néant. Notre Dieu, vous savez, si nous devenons un tel rien, alors Dieu peut faire de nous beaucoup de choses. Vraiment, devenir un tel rien, car il est écrit, car c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a appelé le monde à l'existence à partir du néant. Par la foi, nous reconnaissons que nous ne sommes rien, mais que Dieu a fait de nous des fils et des filles de Dieu, ne serait-ce que pour la gloire de son Saint-Nom. Or, nous avons lu ce nom glorieux de Jésus en lequel tout genou fléchira et toute langue confessera. Ce nom n'est pas seulement décrit dans les évangiles, mais aussi dans sa puissance et sa signification dans les actes des apôtres. Et si l'on lit les premiers chapitres des actes des apôtres, l'accent est mis sur ce nom. Jean et Pierre vont adorer dans le temple. Bien sûr, il s'agissait de Pierre, mais Jean aurait dit la même chose. Pierre, c'est ici au chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Nous rencontrons ici la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut parler de cette puissance. On peut aussi en faire l'expérience. Mais on peut aussi en faire l'expérience. Et nous aimerions arriver à cette expérience de la puissance de Dieu personnellement. De même que le Seigneur s'est révélé à nous et que l'enveloppe nous a été enlevée, nous le reconnaissons comme celui qui est, qui était et qui vient. C'est ainsi que nous aimerions nous exclamer avec Paul, Philippiens 3, verset 10, « Car je voudrais le connaître, lui et la puissance de sa résurrection, et participer à ses souffrances. » Vous savez que les chapitres 3 et 4 des Actes des Apôtres traitent de ce qui est arrivé à cet homme qui a été guéri. Et les apôtres sont appelés à rendre des comptes. Et la question leur est posée au chapitre 4. Après que cet homme a été présenté au souverain sacrificateur Anne et Caïphe et que tout et que tous se sont réunis. Et ensuite, il est dit ici au verset 7 d'Actes apôtres 4. Actes apôtres 4, verset 7. Puis on les fit comparaître et on leur demanda, par quelle puissance ou par quel nom avez-vous accompli ce signe? Il s'agit ici tout d'abord de deux choses. Par quelle puissance? Ils savaient qu'une puissance était nécessaire pour accomplir ce miracle de la guérison puissante, merveilleuse, miraculeuse. Et ils savaient que cette puissance était supérieure à la leur. Mais ils ne savaient pas encore exactement ce qu'ils devaient ou pouvaient en faire. Et demandent maintenant, par quelle puissance et par quel nom avez-vous accompli cela? Et après cela, il y a un verset tout à fait glorieux. Verset 8. Pierre fut alors rempli d'Esprit Saint et leur dit, « Oh, qu'il me soit donné, ainsi qu'à nous qui prêchons la parole de Dieu avant d'ouvrir la bouche, avant de parler, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, afin que Dieu lui-même puisse parler à travers nous. Sinon, cela n'a aucun sens. Nous avons suffisamment de paroles humaines sans venir au service divin. Si nous venons au culte, au service divin, et qu'il s'agit des choses de Dieu, de la cause de Dieu, de la parole de Dieu, nous voulons entendre vraiment la parole de Dieu. Mais avant de pouvoir entendre la parole de Dieu, il faut que celui qui parle soit rempli du Saint-Esprit. Actes apôtres 4, verset 8. Pierre fut alors rempli d'Esprit Saint et leur dit, nous pourrions tous dire, oui, attendez, il était certainement parmi les 120 qui ont été remplis de Saint-Esprit à la Pentecôte. Oui, il était parmi les 120. Mais il a toujours de nouveau, nouvellement, de manière nouvelle, été rempli de Saint-Esprit. À nouveau, toujours de nouveau. Pas seulement une seule fois. Vous savez, c'est le secret. Pas seulement une seule fois avoir été rempli du Saint-Esprit, mais à chaque occasion que Dieu nous donne de témoigner de ce qu'il a fait, nous devons, pour le faire, être remplis à nouveau du Saint-Esprit pour que le témoignage ait une force de frappe, pour que le témoignage ait une puissance, produise un effet. Sinon, nous parlons en termes de preuves humaines et les autres s'en vont et ont entendu beaucoup de choses, mais ils n'ont rien pu recevoir et emporter. Ici, c'est écrit, Pierre fut alors rempli de cet esprit et leur dit, chef du peuple et ancien, si nous devons aujourd'hui répondre d'un bienfait accordé à un malade et que l'on nous demande par qui cet homme a été guéri, verset 10, Actes apôtre 4, qu'il en soit ainsi pour vous tous et pour le peuple d'Israël, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, si Pierre n'avait pas été rempli de cet esprit, il lui aurait certainement fallu beaucoup de temps pour en venir au fait. Mais quand cet esprit est là, on va tout de suite à l'essentiel et on ne fait pas beaucoup de détours, mais on va tout droit à l'endroit où on doit aller. Et c'est ce qui s'est passé ici avec la réponse de Pierre. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié. Oh, quel courage! Le voilà devant le Sanhédrin. J'étais en prison, tout était pourtant là. Et il a, malgré tout le courage, il dit plein d'Esprit Saint, la pleine vérité. Seuls les hommes remplis du Saint-Esprit peuvent dire toute la vérité devant leurs amis et leurs ennemis en toute occasion, de manière appropriée ou non. Tous les autres chercheront d'une manière ou d'une autre à se frayer un chemin et à trouver des raccourcis. Mais lorsque le Saint-Esprit prend le relais, on arrive au but. On ne parle alors que... On ne parle alors pas à côté de la plaque, car on ne parle pas soi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut alors parler, non seulement à nous, mais à travers nous. Et il est dit ici, celui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Oui, c'est par son nom que cet homme se tient ici devant vous en pleine santé. Quel témoignage puissant. Il leur reproche la crucifixion de Jésus. Mais il élève le nom de Jésus et dit, « Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Il est ici, par lui, par sa puissance, par son nom, qu'un tel miracle s'est produit. Eh bien, le mystère de cette histoire réside dans le fait que le témoin se présentait comme un témoignage directement tangible. Ce n'était pas une chose dont on parlait, mais la chose elle-même qui était là, dont il était question. L'homme en qui Dieu s'était glorifié était là. Et c'est pourquoi cet homme pouvait dire ici, par le Saint-Esprit, oui, par le nom de qui cet homme se tient ici en bonne santé devant vous. L'homme se tenait là comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu qui s'est manifestée en lui. Et il est alors facile de témoigner lorsque la chose dont on parle est proche, est visible, est tangible, lorsqu'on peut l'aborder, lorsqu'on peut la voir, alors il est facile de témoigner. Et c'est au fond le caractère global des actes des apôtres. Ce n'est pas un livre de théorie, mais de pratique. Ce qui a été donné à l'Église était donc après l'effusion de cet esprit. Et ce que l'Église est chargée de faire, ce à quoi elle est destinée, ce qui fait partie de ses attributions, tout cela a déjà été décrit ici dans ces chapitres. Actes apôtres 4, verset 10. La deuxième partie. Oui, c'est par son nom que cet homme se tient ici devant vous en pleine santé. La dernière partie. Maintenant, le verset 11. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous, bâtisseurs. Est-ce que vous voyez ici le courage? Imaginez-vous le courage. Ici, il ne dit pas la pierre rejetée par les bâtisseurs. Alors, ils auraient été contournés. Alors, ils n'auraient pas eu de discours personnel pour discours personnel pour eux. Mais là, il se tenait devant les bâtisseurs. Il n'était pas devant le peuple. Il devait s'adresser à ceux devant qui il se tenait. Et c'est là qu'il utilise la parole. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs. Par vous, bâtisseurs. Oui. Oui. C'est ce qu'un être humain doit imaginer. Ce mot « vous ». Oui, le Sauveur a posé la question de savoir ce que signifie ce mot. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, elle est devenue la pierre angulaire. Psaume 118, 22. Puis Pierre écrit encore à ce sujet dans sa lettre. Mais ici, plein de l'Esprit Saint, il a donné le coup de grâce à ceux qui se trouvaient en face de lui. Il se tenait là sans crainte parce qu'il était plein du Saint-Esprit, rempli de Saint-Esprit. Et il a dit, ce Jésus est la pierre rejetée par vous, bâtisseurs. Oui, quel a dû être leur sentiment à ce moment-là? Ce pêcheur, vous allez bientôt entendre ce qu'ils disent de lui. Acte 4, verset 11. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous, bâtisseurs, et qui est devenue la pierre angulaire. Et en aucun autre ne se trouve le salut. Car il n'y a pas non plus sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes en lesquels nous devions être sauvés. N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Un témoignage de la présence de Dieu lui-même, de la puissance du nom de Jésus-Christ. Car c'est bien là que se situe la question. Par quelle puissance, au verset 7 de Actes chapitre 4, ou par quel nom avez-vous accompli ce miracle, ce signe? Telle est la question. Par quelle puissance et par quel nom? Par la puissance de celui dont le nom est tel qu'il est lui-même. Merveilleux, conseiller, puissance, Père éternel, Prince de la paix, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est par cette puissance que le miracle de la guérison a eu lieu. Et Pierre n'a pas bégayé ni balbutié en apportant cela ici, car il était plein du Saint-Esprit. Et c'est avec la dernière certitude et assurance et la dernière autorité qu'il a pu dire tout cela et qu'il rend témoignage au verset 12. Et en aucun autre ne se trouve le salut, car il n'y a pas non plus sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes en lequel nous devions être sauvés. Que dans ce seul nom de Jésus-Christ, c'est un merveilleux témoignage. Je souhaiterais que ces jours soient utilisés à cette fin et que le Seigneur les bénisse pour que nous entrions tous en sa présence, que nous soyons remplis de son Saint-Esprit, afin que ce qui s'est passé dans les Actes des apôtres puisse se produire. Sans cette puissance, cela ne peut pas fonctionner et ne fonctionnera pas. Il faut la puissance de Dieu pour que le nom de Jésus puisse être glorifié. Ensuite, il est dit du verset 13, « En voyant l'assurance joyeuse de Pierre et de Jean, et après avoir appris que c'était des gens sans instruction, et sans culture. Ils s'étonnèrent et reconnurent qu'ils avaient été les compagnons de Jésus. » Ce sont là encore deux merveilleux témoignages qui sont délivrés à ces deux hommes de Dieu. D'une part, ils ont été étonnés de voir que la grande chose avait été faite par de petites personnes simples, sans formation et sans éducation. Et d'autre part, ils ont reconnu qu'ils étaient des compagnons de Jésus, qu'il s'agissait de disciples de Jésus. Ils n'ont donc pas seulement parlé de Jésus, mais ces hommes ont reconnu qu'il faisait partie de ceux qui avaient été appelés par Jésus, qui avaient marché avec lui, qui avaient été avec lui. Ça, ils l'ont reconnu. Oui, c'est la deuxième chose. Est-ce que les gens reconnaissent que nous marchons avec Jésus? Vous savez, toutes ces choses sont écrites pour que nous y réfléchissions, pour qu'elle nous parle, pour qu'elle nous touche le cœur, et pour que nous nous mettions à la place de ces hommes de Dieu ou de la situation que nous lisons ici. Il relit le verset 13. « En voyant l'assurance joyeuse de Pierre et de Jean, ces deux hommes de Dieu étaient remplis de joie, de reconnaissance dans leur cœur pour ce qui s'était passé. Et ils se sont certainement réjouis de pouvoir témoigner devant les anciens, devant le Sanhédrin, le grand conseil et de dire ce que Dieu avait mis dans leur bouche à l'heure, à la minute, et qu'ils devaient prononcer. Mais cette assurance joyeuse, c'est ce qui est écrit ici, voyant l'assurance joyeuse de Pierre et de Jean, ou bien alors la joyeuse assurance, et ayant appris ou remarqué que c'était des hommes sans instruction et sans culture, ils furent étonnés. Ils reconnurent même qu'ils avaient été les compagnons ou alors les disciples de Jésus. Oui, ce sont des pensées que nous ne pouvons pas ignorer très vite, trop vite, au moment où Dieu fait quelque chose. La joie s'installe dans notre cœur. La certitude de la foi augmente. Notre témoignage acquiert la force et l'impact nécessaire grâce à ce que Dieu fait. Et tout ce que Dieu fait, il le fait par la puissance du nom de Jésus-Christ. Car c'est dans ce nom et en Jésus-Christ que Dieu s'est révélé sur cette terre, lui-même. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il y a donc la puissance de Dieu elle-même dans le nom de Jésus. Et la puissance de Dieu est illimitée. Seule notre incrédulité est une chose insensée qui nous paralyse. Sinon, nous pourrions nous élever comme un aigle et nous élancer dans les airs. Si nous pouvions croire, nous verrions la gloire de Dieu. Et si nous croyons, comme l'Écriture l'a dit, des fleuves d'eau vive doivent couler de nos corps. Et un fleuve qui coule, vous savez qu'il a toujours une source quelque part. Et Jésus dit dans Jean 7, Jean 4, verset 14, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Une source qui déborde, que personne ne peut boucher. Et puis, il y a sans doute un autre verset glorieux ici. Un instant, non, le verset 14. Acte 4, verset 14. Et parce qu'ils voyaient l'homme qui avait été guéri se tenir près d'eux, ils ne surent rien répliquer. Le témoignage lui-même se tenait à côté d'eux, ceux qui avaient rendu témoignage. Et il n'y avait plus rien à faire. Ils ne pouvaient pas dire, écoute, mec, nous voulons parler à ces deux-là maintenant, mais nous ne voulons pas te voir ici. Non, l'homme s'accrochait tellement à ces deux-là qu'il n'aurait tout simplement pas pu le faire sortir, le faire partir. Il était avec eux, car Dieu l'avait ajouté. Dieu s'était révélé à lui et s'était glorifié en lui. Il savait où était sa place désormais. Il faisait partie de ceux qui se tenaient du côté de Dieu. Il faisait partie de ceux qui étaient du côté de Dieu. Et c'est de ce côté-là qu'il s'est immédiatement placé. Il avait les sacrificateurs. Il avait les grands souverains, il avait les grands conseillers, le grand conseil et le haut conseil. Il n'était pas là. J'ai lu ces jours-ci la triste histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 18, où il est dit que lorsque le Seigneur Jésus est allé à Gethsémani, Judas était avec ceux qui sont venus pour capturer Jésus. Il n'était plus avec les disciples de Jésus. Il était avec ceux qui étaient venus pour le capturer. Oh, cela m'est allé très loin dans le cœur, très profond dans le cœur. 3 ans et demi à marcher avec le Seigneur et soudain se retrouve en face du côté des ennemis et venir là à l'endroit qu'il connaissait bien. Celui qui lit cela doit avoir le cœur déchiré. Il ne peut pas en être autrement. Mais voici que cet homme se tenait aux côtés de ceux que Dieu avait soutenus, aux côtés de ceux aux côtés duquel Dieu se tenait lui-même et par qui Dieu avait parlé et agi. Et ces hommes du haut conseil ne pouvaient pas dire grand-chose parce que cet homme qui avait été guéri se tenait à leur côté. Ils ne savaient plus quoi répondre. Combien de temps pensez-vous qu'ils auraient encore argumenté? Mais tout argument était superflu, car c'était l'homme qui se tenait là, et non les arguments. L'homme en qui Dieu s'était glorifié était là, et ce témoignage aurait écrasé tous leurs arguments au sol. Et c'est pourquoi ils n'ont pas commencé du tout. Ils ont seulement demandé par quelle puissance et par quel nom. Ils savaient que c'est arrivé, n'est-ce pas? Mais ils voulaient savoir comment c'était arrivé. Et cet homme était là, présent. Il a dit ici ensuite, plus loin, au verset 15, Actes apôtre 4. Ils les laissèrent donc quitter la réunion du conseil et discutèrent ensemble de la question. Verset 16, que ferons-nous de ces hommes? Car le fait qu'un signe miraculeux, indiscutable, a été accompli par eux, est connu de tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le contester. Oh, quel témoignage! Ses adversaires devaient-ils rendre que Dieu avait fait ici quelque chose d'extraordinaire? On lit ensuite, est devenu connu, et nous ne pouvons pas le contester, la fin du verset 16. Ils pouvaient discuter, mais ils ne pouvaient absolument rien contester, car l'homme se tenait là. L'homme guéri se tenait là. Et ils devaient admettre et dire, nous ne pouvons pas le contester. Le verset 17, mais pour que le bruit ne se répande pas davantage parmi le peuple, nous voulons leur ordonner sérieusement de ne plus parler à l'avenir à personne en mentionnant ce nom. Oui. Ils voulaient empêcher que cela se sache encore plus à Jérusalem. Ils n'ont pas pu empêcher que cela se sache dans le monde entier. Qu'avons-nous lu dans le prophète Ésaïe? Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé. Ce n'est pas en cachette que Dieu a agi. Dieu a agi publiquement. Il a parlé publiquement. Et le monde entier en a été informé. Et toi et moi n'avons pas seulement appris cela, nous avons pu faire nous-mêmes. Et toi et moi n'avons pas seulement appris cela, nous avons pu faire nous-mêmes l'expérience de son action puissante dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et c'est le plus grand de tous, de tout. Et c'est le plus grand de tout. Nous pouvons contempler et entendre beaucoup de choses, mais nous voulons aussi en faire personnellement l'expérience. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu en faire de nombreuses fois l'expérience. Et ils n'ont donc rien pu empêcher du tout. Ils n'ont même pas pu empêcher que ce qu'ils ont dit ensemble lors de leur conseil secret soit révélé aux apôtres par l'Esprit et que cela soit écrit dans la Bible. Ils ne pouvaient absolument rien empêcher. Mais sans le vouloir, ils ont encore renforcé le témoignage de Dieu et ont dû confesser qu'un miracle a été accompli en lui. Nous ne pouvons pas le nier, ils le disent-ils. Le disent. Mais nous voulons empêcher que cela soit encore plus connu d'une manière ou d'une autre. Et ainsi, nous voulons ordonner qu'à l'avenir, ces personnes ne mentionnent plus Jésus, le nom de Jésus, en citant son nom ou en le citant. Et puis, il est dit ici, après cette réunion du conseil, au verset 18, ils les firent ensuite revenir. Je ne crois pas que Luc, qui a écrit le livre des Actes, ait mis l'oreille au trou de la serrure pour entendre ce que le Sanhédrin, le haut conseil, décidait là. Non, il était assis là, comme tous les prophètes et les hommes de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et puis, il est dit ici, au verset 18, ils les firent ensuite revenir et leur ordonnèrent de ne plus rien dire ni enseigner en mentionnant le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent en disant, « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plus qu'à Dieu. N'est-ce pas là une chose merveilleuse ?» Ils n'ont pas commencé à argumenter en disant, « Écoutez, cher monsieur, n'est-ce pas, nous sommes aussi des citoyens et nous avons un droit. » Abat tout droit et tout citoyen en général, toute citoyenneté. L'Esprit de Dieu a parlé à travers eux. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu et de vous obéir plus qu'à Dieu. Ils n'étaient pas mandatés ou alors ils ne se tenaient pas sous un mandat reçu de la communauté religieuse de l'époque, mais par Dieu. Et c'est Dieu qui les a mandatés. Et voici la question. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plus qu'à Dieu. Le verset 20. Pour notre part, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est tout. Et je crois que c'est aussi ce qui nous anime ces jours-ci. Nous avons vu, nous avons entendu. Ces paroles ressemblent presque à celles de Jean, puisqu'il écrit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie. C'est ce que nous vous annonçons. On dirait presque ici les mêmes paroles. Mais de toute façon, c'était le même cet esprit. Quelle que soit la bouche qui s'ouvrait là et les lèvres qui bougeaient, c'était le Saint-Esprit qui parlait à travers ces hommes de Dieu. Et il est dit au verset 20, pour notre part, il est impossible que nous ne parlions pas de ce que nous avons vu et entendu. Actes apôtres 4, verset 20. Verset 21, ceux-ci ajoutèrent d'autres menaces, puis les relâchèrent, ne trouvant aucun moyen de les punir par regard pour le peuple, car tous louaient Dieu pour ce qui s'était passé. Verset 22, car l'homme sur lequel s'était produit ce miracle de guérison était âgé de plus de 40 ans, connu dans toute la ville. C'est ainsi que Dieu a parlé dans les Actes des apôtres. C'est ainsi qu'il a agi. S'il est le même aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter d'entendre parler uniquement de ce qu'il a fait autrefois ou dans notre génération par le ministère de Frère Branham. Ni même de ce qu'il a encore fait il y a 10, 15 ou 3 ans. Au contraire, nous devrions prendre courage et faire confiance à notre Dieu pour qu'il est vraiment le même, et que la puissance de Dieu, la puissance du nom de Jésus-Christ, accomplit encore aujourd'hui des miracles de création, des miracles de guérison, des miracles de salut et des miracles de délivrance, selon l'esprit, l'âme et le corps, car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et le même dans toute éternité. Amen. Nous avons de nombreuses raisons de remercier et adorer Dieu. Levons-nous pour cela. De tout notre cœur, de nous avoir rendus dignes pour cette heure du soir, d'avoir pu entendre ta parole et d'y avoir cru, et que notre désir, Seigneur, soit, ô Seigneur, que tu puisses détendre ton bras puissant. Ainsi, Seigneur, que tu puisses te manifester en tant que le même, car tu es encore le même tel que tu l'étais autrefois. Seigneur, fais-toi connaître de manière puissante. Ô Seigneur, que ce ne soit pas seulement mon vœu pieux. Ô Seigneur, non, c'est mon désir profond. Seigneur, que ton saint nom soit ainsi glorifié, Seigneur. Par cela, louange à toi, gloire et adoration, Seigneur. Ce n'est pas nous, Seigneur, non. Ce n'est pas à nous que revient la gloire, mais c'est à ton nom, Seigneur, que revient toute la gloire, Seigneur, et ton nom sera ainsi glorifié. Car ces hommes ainsi, Seigneur, ont glorifié ton nom par cela. Ils ont pu dire au nom du Seigneur que vous avez crucifié. C'est par ce nom que ce miracle a eu lieu. Oh Seigneur, que cela se produise parmi nous. Oh Dieu, dans notre vie, dans notre environnement. Oh Seigneur, c'est notre désir et notre prière. Alléluia. Merci pour cette précieuse et sainte parole, Seigneur. Fortifie mon frère, Seigneur. Donne-lui une nouvelle force, une nouvelle puissance. Donne-lui une nouvelle puissance. Donne-lui un nouveau courage, oh Seigneur, afin que nous puissions rendre témoignage. Et quand nous devons le faire, que ton Saint-Esprit vienne sur nous, comme s'il est venu sur Pierre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole sainte et précieuse. Tu nous as merveilleusement vivifiés. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Seigneur, sois encore avec nous, même dans les jours et les heures à venir, Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont venus. Seigneur, merci pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen.